7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, on devrait dire 7 milliards et demi, puisque nous sommes bien 7 milliards et demi sur Terre aujourd'hui. Et nous sommes le lundi 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Une journée avec une résonance particulière en ces temps de pandémie qui a jeté près d'1,5 milliard d'élèves hors de leur salle de classe et 63 millions d'enseignants du primaire et du secondaire dans le monde. Après s'être mobilisés pour continuer les apprentissages à distance, parfois avec les moyens du bord, les enseignants ont repris le chemin de l'école et font la classe avec masque sur le visage dans bon nombre de pays. Leur salaire, leurs conditions de travail, la reconnaissance dont ils bénéficient sont plus que jamais d'actualité. En Afrique, la crise économique affecte de plein fouet les écoles privées. Certains enseignants ne touchent plus de salaire depuis des mois. Et pourtant, la crise du Covid nous montre que dans un monde de plus en plus incertain, eh bien, l'accès à la connaissance, les apprentissages fondamentaux sont plus que jamais indispensables pour l'avenir des jeunes générations. Alors nous allons en parler avec Barbara Tournier de l'UNESCO. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des enseignants à l'Institut international de planification de l'éducation à l'UNESCO. Nous serons également en ligne avec deux syndicalistes enseignants, Valérie Sipahi-Malani en France, qui est secrétaire générale adjointe du Syndicat national des enseignants du second degré, le SNES. Et puis on sera aussi en ligne au Bénin avec Amoussou Anselme, secrétaire générale de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, qui regroupe énormément de syndicats enseignants. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous êtes enseignants, dites-nous quels sont vos besoins les plus urgents, vos attentes en cette rentrée pas comme les autres. Les parents ou les lycéens, vous avez aussi bien sûr la parole. Vous pouvez nous contacter sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous répète le nom de notre, le numéro de notre compte WhatsApp pour nous appeler gratuitement. 33 7 64 45 51 41. Et vous nous suivez aussi en direct sur Twitter. Je vous lis quelques messages qui ont été postés sur nos réseaux sociaux. Romuald est à Bangui en République centrafricaine. Moi, je dis merci aux enseignants parce qu'ils ont fait de leur mieux lors de la reprise des cours pour appliquer les gestes barrières et je les félicite. Dany est à Bukavu en RDC. Il est enseignant. Il nous dit « Je ne suis pas rémunéré par l'État depuis plus d'un an. Pendant le confinement, j'enseignais sans rien recevoir. La vie est médiocre pour nous. » Philémon est à Butembo également en RDC, dans le Nord Kivu. Chez nous, en prônant la gratuité de l'enseignement de base, les autorités n'arrivent même pas à songer à la prise en charge des professionnels de la craie. Une année sans même toucher un sou, c'est vraiment pitoyable pour nous, pauvres enseignants de la RDC, alors que nos députés reçoivent mensuellement des allocations tellement supérieures pour ne rien faire. C'est le point de vue de cet enseignant. Suite à cette disparité sociale, nous, Congolais, nous voudrions tous faire de la politique. Une mère de famille aussi, Alciane, qui a 3 enfants scolarisés en école privée à Brazzaville. Elle dit que pendant le confinement, elle a loué les services de la maîtresse de son fils aîné. On a créé un emploi du temps. Elle est venue 3 jours par semaine pendant 2 mois pour aider les enfants à terminer le programme de l'année. J'ai bien conscience que tous les parents ne pouvaient pas payer cette solution. Et puis, je vous propose aussi d'écouter le message de Guillaume Pascal. Il est à Bamako, au Mali. Il est enseignant vacataire à l'université depuis 4 ans. Écoutez son témoignage.
Personnellement, le métier de l'enseignement est une vocation, c'est quelque chose que j'aime. Plusieurs fois, on m'a félicité parce que je savais le faire. Donc, à l'université, je veux en faire de ça mon métier. Dans ce contexte difficile de Covid-19, combiné avec la situation de coup d'État et des sanctions de la CEDEAO, ajouté à l'incertitude et au silence des dirigeants, c'est un peu compliqué. La vie est très dure. Niveau salaire, vraiment, ça ne va pas. Et presque 9 mois sans aucun sou. Mais bon, quand même, on travaille quand même comme on peut. Hein. On ne sait pas où on va, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est dommage qu'un enseignant, aussi jeune que nous soyons, nous puissions vivre le jour comme les professionnels du secteur informel, quoi. C'est ça l'espérance qui nous fait tenir.
7 milliards de voisins.
Parce que nous sommes tous des voisins.
Et bien sûr, vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41 pour nous faire part de ce que vous vivez en tant qu'enseignant. C'est la journée mondiale des enseignants aujourd'hui. Barbara Tournier, vous appartenez à l'UNESCO. Est-ce que les enseignants, c'est la profession sacrifiée à l'autel de la pandémie, des crises ?
Je ne dirais pas que c'est une profession qui est sacrifiée, parce qu'en même temps, on voit toutes leurs difficultés. Les témoignages sont vraiment édifiants à ce sujet-là, mais en même temps, ils ont montré, comme vous l'avez dit en ouverture, un dynamisme réel pour répondre à cette pandémie. Donc on voit qu'il y a un réel désir d'enseigner, mais comme ils l'ont tous souligné, les conditions du métier sont très très difficiles.
Arsène nous envoie le message suivant, il est à Paracou au Bénin, il nous dit: de nos jours, les gens entrent dans l'enseignement par accident, c'est-à-dire à défaut d'autre chose. Il faut que ça change, parce que ça remet en cause la qualité de l'enseignement. C'est un choix par défaut aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une pénurie d'enseignants dans le monde, globalement.
Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'un emploi de dernier recours, parce que c'est un métier qui n'est pas attractif, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord. On sait que les salaires sont globalement assez bas. Dans les pays du Sud, on parle souvent des enseignants qui ont un deuxième emploi. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on constate aussi dans les pays du Nord. Un chiffre qui est très parlant à ce sujet, c'est le cas des États-Unis, où 16% des enseignants ont un second emploi parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc il y a un réel problème au niveau mondial au sujet de l'attractivité du métier. Il faut absolument chercher à le revaloriser. Par rapport à la pénurie d'enseignants, donc forcément vous allez moins attirer de candidats vers la profession. Mais il y a un problème plus global, c'est que pour atteindre les objectifs du développement durable, l'objectif qui est la scolarisation primaire et secondaire universelle d'ici 2030, les pays vont avoir besoin de recruter massivement. On sait qu'au niveau global, ça représente à peu près 69 millions d'enseignants, mais c'est pas très parlant quand on le dit comme ça.
Il faut recruter 69 millions d'enseignants d'ici 2030 ?
Oui. Quand on le rapporte au niveau des pays, c'est beaucoup plus parlant. Parce qu'en fait, dans certains pays d'Afrique, ça veut dire que plus de 50% des diplômés de l'université devraient choisir la profession enseignante pour venir combler le déficit. Donc on voit bien que c'est un défi qui va être insurmontable.
Il y a des plus de 50% des diplômés d'université devraient choisir ce métier-là, ce qui, évidemment, ils ne vont pas faire, pour qu'on ait plus de pénurie d'ici 2030.
Pour atteindre l'enseignement primaire et secondaire.
Ça veut dire que sur un continent comme le continent africain, la démographie scolaire, c'est-à-dire l'augmentation des élèves, est bien plus importante que les recrutements.
Ah, ils sont beaux. Oui, il y a le problème de la démographie scolaire et le fait qu'au secondaire, la scolarisation n'est pas encore assez développée. Donc ça fait beaucoup de défis, et ce qui accentue énormément les besoins en recrutement. Et ce qui a après une incidence sur la formation des enseignants, parce qu'on ne peut pas garder la mesure de tous ces recrutements.
Est-ce qu'il y a une crise de confiance envers les enseignants aujourd'hui, de la part des familles, de la société en général aussi ?
Ça, c'est très personnel, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, en plus pendant ce confinement, les parents se sont tous rendus compte à quel point c'est un métier qui est difficile, qu'on ne s'improvise pas enseignant. Je pense que ça a été très positif en fait.
Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'une directrice d'école au Cameroun qui nous a posté ce message au 33 7 64 45 51 41.
Bonjour, je m'appelle Mbokchinda, je vis à Douala et je suis responsable d'un établissement d'enseignement privé. À l'annonce du confinement, on a vu pratiquement tous nos parents partir sans s'acquitter de la troisième tranche. Et cela nous a plongé dans une situation extrêmement difficile parce que on n'a pas pu couvrir nos charges. Voilà, ça a entraîné un effet direct de précarité également sur les enseignants parce que les paiements de salaire ont été, pour certains, diminués. Pour d'autres, il y a eu des retards de paiement. Et les mois à venir aussi vont être difficiles. Il faut couvrir les charges et on manque de moyens financiers. Et déjà que pour les enseignants, c'était déjà difficile bien avant le confinement de vivre uniquement de son salaire. En dehors des enseignants qui sont recrutés par l'État, qui ont un certain revenu, la plupart des enseignants du secteur privé, y compris les miens d'ailleurs, en dehors de leur travail, font d'autres activités déjà pour pouvoir vraiment avoir un revenu convenable. Ils vont être moto-taximan, certains vont être manœuvres dans les chantiers, d'autres, ça va être des cours de répétition à domicile. Pour certains, ça va être les trois en même temps. Et c'est assez difficile pour nous, les responsables d'établissement, de ne pas pouvoir vraiment avoir apporté des solutions face à cette situation-là, parce qu'on ne peut pas exiger aux parents non plus de payer cette tranche-là, parce que si on l'exige, ils iront dans un autre établissement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution. Moi, la responsable d'établissement, je vais renvoyer la balle à mon promoteur. Le promoteur, il va renvoyer la balle aux institutions dirigeantes. Et on ne sait pas vraiment qui est-ce qu'il faut voir pour que peut-être la situation s'améliore. Et c'est vraiment une situation qui dure depuis longtemps et il n'y a pas vraiment de véritable solution. Merci.
Oui, on est vraiment sur un marché, celui de l'école privée. Une enseignante est aussi en ligne avec nous au 33 7 64 45 51 41. Marlène, vous êtes enseignante en école privée, mais au Congo-Brazzaville.
Oui.
Est-ce que vous avez entendu le témoignage de cette directrice d'école privée au Cameroun qui disait son désarroi de ne pas avoir pu payer ses enseignants au troisième trimestre, et pour cause, puisque les parents n'avaient pas payé le troisième trimestre, et pour cause parce qu'il n'y avait pas d'école, et que les enseignants se retrouvaient dans une situation très compliquée. Vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Eh bien, pour moi, à cause de la COVID-19, j'ai été sollicitée par les parents d'élèves. J'ai eu au moins deux parents. Et c'est ça qui a permis que je puisse au moins payer mon loyer.
C'est-à-dire que vous êtes devenue préceptrice à domicile. Vous donniez déjà des cours privés en dehors de votre métier d'enseignante avant la pandémie?
Oui.
Donc en fait, ça n'était pas... Le fait que vous soyez préceptrice, ça ne s'est pas substitué. C'était déjà quelque chose dont vous aviez besoin avant.
Oui, exactement.
Ouais. Et du coup, comment vous avez fait financièrement, alors là, avec la perte de votre salaire temps plein?
Oui. Mais c'est ce que je disais, vu les encadrements avec les deux parents, ça m'a permis au moins de payer le loyer.
De votre logement?
Oui.
Merci beaucoup Marlène de nous avoir appelé. Vous êtes à Brazzaville. Barbara Tournier, quelles sont les solutions à une situation de ce type? On voit bien que les écoles privées sont dans des situations extrêmement fragiles, hein, c'est ce qu'a montré la pandémie. Pas de consommateurs, pas de clients, pas de recettes et donc pas de salaire pour les enseignants qui eux-mêmes ont déjà plusieurs emplois. C'est quoi la solution?
Alors, la solution, je ne la connais pas, mais effectivement, tous les intervenants, les interventions qu'on a pu entendre, on a eu le même son de cloche, nous, par rapport au retour qu'on a eu des pays. On avait, par exemple, le syndicat des enseignants du privé du Togo qui nous disait « Nous n'avons plus de nouvelles de nos employeurs, les salaires de mars sont impayés. » L'heure est grave, on risque de mourir de faim et non pas du Covid-19. Et c'est vrai que les salaires, ça a été vraiment la préoccupation majeure des discussions qu'on a pu avoir avec les pays. La situation, elle a été très différente en fonction du statut des enseignants. Les statuts fonctionnaires, les enseignants fonctionnaires ont été relativement peu touchés. Mais c'est vrai que les enseignants du privé, les enseignants du secteur informel, de la petite enfance, ceux qui étaient sur des contrats précaires, les communautaires, etc., se sont retrouvés sans moyens de subsistance.
Et qui représentent un pourcentage extrêmement important, en réalité, quand on additionne toutes ces catégories que vous venez de citer.
Absolument.
De l'école africaine.
En fait, il ne faut pas du tout sous-estimer le poids de l'enseignement non étatique. On sait que dans le monde, il y a entre 20 et 30% des élèves qui sont scolarisés dans des écoles hors du système public. Donc c'est énorme. Et c'est pas seulement les familles aisées qui vont avoir accès à l'enseignement privé, c'est souvent dans les pays à faible et moyen revenu, les familles les plus pauvres. Si vous prenez le cas de l'Inde, c'est 50% des élèves qui sont scolarisés en dehors des écoles publiques. Et dans des villes comme Kampala, c'est 84%.
Kampala en Ouganda.
Oui, Kampala en Ouganda. Et Nairobi, au Kenya, 60%. Donc oui. C'est vraiment, ça touche vraiment les élèves les plus pauvres. Ça va avoir des conséquences désastreuses. Et en termes de solutions, il est urgent maintenant de mettre en place des cadres de concertation entre l'État et le...
Vous parliez du Kenya, année blanche totale, hein, c'est ce qui a été annoncé. Rien ne reprendra cette année. C'est un des rares pays d'ailleurs du continent africain où il n'y aura pas de rentrée scolaire du tout. Les écoles privées se mobilisent pour proposer des cours en ligne, ce qui permet de continuer de faire payer les frais de scolarité et de payer les enseignants, à condition évidemment que les familles aient accès à de l'internet avec des moyens corrects. On va donner la parole à un syndicat enseignant au Bénin. Bonjour à Moussou Anselme. Ah, on vient de vous perdre. On vous a bien au téléphone, à Moussou Anselme. Bonjour. À Moussou Anselme, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous? Sinon, j'en profite pour nous redonner le téléphone WhatsApp pour les auditeurs qui veulent témoigner de leur situation d'enseignant, puisque c'est la journée mondiale des enseignants. Aujourd'hui, lundi 5 octobre, 33 7 64 45 51 41. Puisqu'on parlait du secteur privé, Barbara Tournier, il y a plusieurs pays qui se sont mobilisés pour renforcer pour leurs subventions au secteur privé. C'est le cas du Sénégal, où il y a eu une subvention supplémentaire aux écoles privées. Au total, 3 milliards de francs CFA. Ça fait à peu près 4,5 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça a été le cas un peu partout? Est-ce que les pays sur le continent africain ont pris conscience de l'importance de la crise économique qui allait toucher les écoles privées? Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on n'est même pas sûr que ces écoles-là vont pouvoir survivre. Peut-être que des familles n'auront plus les moyens de mettre leurs enfants du fait de la crise économique sur le continent. Conséquences de la pandémie, n'auront peut-être plus les moyens de mettre leurs enfants dans ces petites écoles privées.
Effectivement, les conséquences vont être vraiment désastreuses pour la qualité et l'accès à l'éducation. On sait qu'il y a des pays qui ont mis des mesures en place, mais pour l'instant, les retours, on n'a pas suffisamment de retours pour avoir une vision globale. En tout cas, au niveau de l'impact, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les individus, les familles, et les communautés, et que ces enseignants qui ne perçoivent pas de salaire vont chercher d'autres moyens, d'autres revenus, et ne pourront pas assurer la continuité pédagogique. Donc, comment ces élèves-là vont-ils pouvoir accès à l'éducation? C'est une grosse question. Et sur le plus long terme, si ces enseignants trouvent un travail ailleurs, est-ce qu'on va leur souhaiter pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, ils ne reviendront pas forcément dans les écoles une fois qu'elles seront réouvertes.
Va manquer de 69 millions d'enseignants d'ici 2030. Donc effectivement, ça s'annonce compliqué. Vous restez avec nous, Barbara Tournier. On donne la parole donc à Moussou Anselme, qui est en ligne en direct de Cotonou. Bonjour à Moussou Anselme.
Oui, bonjour.
À Moussou Anselme, vous êtes en voiture, j'ai l'impression. Il faudrait couper le moteur si c'est possible. Vous arrêtez pour être vraiment au téléphone avec nous. Vous êtes en direct sur RFI. Vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, qui regroupe plusieurs syndicats d'enseignants, des écoles publiques, privées et informelles. J'aimerais déjà que vous nous disiez quelles sont les conséquences de la pandémie sur les enseignants à l'heure actuelle, à Moussou Anselme.
Alors, merci beaucoup. Hein. Les conséquences, elles sont connues. Les conséquences, c'est d'abord au niveau de l'école privée, la perte d'emploi pour nombre d'enseignants du privé, parce que les écoles n'ont pas eu les moyens d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs employés. C'est vrai que beaucoup de parents aujourd'hui, du fait de la perte de leur emploi, justement, n'ont pas pu réinscrire leurs enfants dans les écoles privées, alors que déjà l'année dernière, ils n'ont pas pu payer, honorer les dernières tranches des contributions. Du coup, vous avez dans les classes du public des effectifs pléthoriques, pour la simple raison que c'est la ruée maintenant des parents vers les écoles publiques qui étaient délaissées avant, sont devenues aujourd'hui l'attraction des parents qui... parce qu'on a décrété la gratuité de l'école publique. Ensuite, au niveau des enseignants en général, pour soit le privé comme le public, disons que c'est moralement que le problème se pose, parce qu'il y a vraiment très peu de mesures pour préserver l'enseignant dans sa pratique de classe vis-à-vis de la COVID. Il n'y a pas de masque offert pour l'enseignant, il n'y a pas de gel offert pour l'enseignant.
Le masque n'est pas obligatoire à l'école primaire, pour les enseignants, me semble-t-il.
Non, c'est obligatoire pour l'enseignant, mais pas obligatoire pour les enfants.
Ah d'accord, pour l'enseignant, c'est obligatoire.
c'est obligatoire.
Mais ils n'ont pas forcément, les masques ne sont pas fournis. Quand vous parliez d'effectifs pléthoriques dans le public à l'heure actuelle, du fait du report des familles sur l'école publique parce qu'elles ont des difficultés financières, ça veut dire combien d'élèves par classe? Vous avez des chiffres à nous donner à l'heure actuelle?
Écoutez, vous avez au-delà de 100 dans les classes de CI, de première année. Vous avez des effectifs de 120, vous avez des effectifs de 80.
À l'école primaire?
À l'école primaire, oui, à l'école primaire. Et à l'école secondaire, la moyenne aujourd'hui, ça tourne autour de 50 à 60 élèves par classe, pour les classes du premier cycle. Donc c'est vraiment l'effectif pléthorique, alors que nous sommes dans une approche par compétence qui requiert des effectifs raisonnables. Aujourd'hui, toutes les normes sont largement entamées. Et ça, c'est les difficultés de l'ancien, parce qu'il faut gérer des classes à effectifs pléthoriques avec très peu de moyens. Vous n'avez pas de marge de manœuvre pour vous mettre vous-même en sécurité, à l'abri par rapport à la contamination de la COVID. Donc voilà les réalités de l'école aujourd'hui.
Le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre d'heures d'enseignement pour les enseignants aspirants, hein, c'est bien ça, c'est-à-dire débutants, ils doivent faire 30 heures par semaine pour éponger le déficit d'enseignants.
Oui, c'est une décision nouvelle du ministre de l'enseignement secondaire qui est une aberration. Hein. Pédagogiquement parlant, ce n'est pas tenable parce que ça signifie au minimum 10 classes par enseignant, 10 classes qu'il faut préparer, hein, qu'il faut exécuter et qu'il faut gérer également l'après-classe, les copies à corriger. Le drame, c'est que les 30 heures sont confiées à des enseignants. Vous avez dit vous-même que ce sont des aspirants.
Oui.
Donc, des gens qui sont en début de carrière, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont même pas été formés, parce que les aspirants, ce sont des étudiants qui n'ont pas encore fini, ou bien qui ont fini, qui n'ont pas encore une formation initiale en tant qu'enseignant, et qui ont choisi le métier d'enseignant par effraction. Donc, ce sont à ces personnes en général que l'on confie cette charge horaire. Donc, en fait, on a fait le choix de la quantité au détriment de la qualité. Et ça, ce n'est pas acceptable dans un pays qui a tout à construire.
Néanmoins, il y a quand même une volonté du gouvernement de donner des contreparties financières à ces enseignants. Il y a aussi des primes d'éloignement lorsque les enseignants sont mutés loin de chez eux. On a l'impression qu'il y a une tentative de politique d'attractivité financière.
Non, loin de là. Le ministre a voulu communiquer pour faire croire que cette compensation financière venait justement pour soutenir la mesure des 30 heures, alors que ce n'est pas vrai. La compensation financière dont nous parlons, c'est pour motiver les enseignants qui vont être redéployés en dehors de leur département de composition. En fait, c'est tout. Et nous parlons de 5% du salaire. Hein. Nous parlons de 5% ou de 10% du salaire. 5% en termes donc de l'attractivité, on peut faire mieux, vous ne pensez pas?
Qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant que syndicaliste à Moussou, Anselme, en urgence pour les enseignants?
Ce que nous demandons, c'est qu'on renonce à la mesure des 30 heures. Si on veut vraiment de la qualité, il faut renoncer à la mesure des 30 heures, parce que les 30 heures vont aggraver les problèmes de performance du système éducatif. Les 30 heures, ça fait des dizaines et des milliers d'enseignants qui vont perdre leur emploi parce que désormais, on va confier la charge horaire de 3 enseignants pour 2 enseignants. Du coup, le troisième, il perd son emploi. Il y a déjà des drames sociaux qui se jouent et on ne peut pas prendre ce genre de décision dans un contexte qui est un contexte de COVID ou bien d'après-COVID pour lequel nous avons besoin d'avoir de la performance, d'avoir de la qualité pour permettre au pays d'avoir les ressources humaines pour prendre en charge les impacts de la pandémie. Donc, on ne comprend pas cette décision du ministre de l'enseignement secondaire qui vient compliquer une situation déjà suffisamment grave, quoi.
Merci beaucoup à Moussou Anselme d'avoir été en ligne avec nous de Cotonou au Bénin. Je précise que vous êtes le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin qui regroupe plusieurs syndicats d'enseignants, des écoles publiques, privées et informelles. Merci, très bonne journée à vous. Barbara Tournier, vous êtes toujours avec nous. Peut-être un mot de réaction par rapport à ce que vous avez entendu, notamment sur le report des familles vers les écoles publiques.
Ça, c'est une conséquence à laquelle on pouvait s'attendre. Effectivement, les écoles publiques sont déjà saturées. Si les écoles privées sont fermées, on va se retrouver vraiment en des situations catastrophiques.
Comment mieux répartir les enseignants sur les territoires? On en parlait là. Alors, il y a maintenant des systèmes de primes. Il y a un vrai problème. Les enseignants ne veulent pas aller dans les zones rurales très éloignées, qui sont d'ailleurs des zones qui ne correspondent pas à leurs origines familiales, voire à leurs origines linguistiques. Et donc, on a des villes qui sont parfois qui ne manquent pas du tout d'enseignants et des déserts enseignants.
C'est un vrai problème, la répartition des enseignants sur le territoire. Et c'est une question qui est très compliquée à régler. De mon point de vue, c'est vraiment une question de développement, puisque comme vous l'avez dit, les enseignants ne veulent pas aller dans des zones rurales reculées. Et même avec des primes, ils préfèrent quand même rester en ville parce qu'ils vont avoir accès à un deuxième emploi, ils pourront pouvoir générer des revenus, ils vont avoir une vie sociale plus dense.
Accès à la santé, accès à l'éducation
Exactement.
pour leurs enfants, une éducation de meilleure qualité, tout ça, c'est à prendre en compte.
Voilà. Mais on peut quand même, il faut quand même mettre des mesures en place. Je pense qu'avant tout, ça passe. Le point de départ, c'est d'avoir une meilleure gestion des effectifs des enseignants. À l'heure actuelle, beaucoup de pays n'ont pas de maîtrise de maîtrise de leurs effectifs d'enseignants. Ils ne savent pas à un moment donné combien d'enseignants ils ont et comment ils sont répartis sur le territoire. Donc déjà, si on arrive à savoir ça, on pourra mieux gérer leur répartition. On peut après mettre en place des systèmes où les enseignants eux-mêmes, de par leur choix, vont décider d'aller dans telle ou telle région et essayer de rétablir sur plusieurs années ces déficits dans certaines écoles et les surplus dans d'autres écoles.
Un chiffre UNESCO dont vous faites partie pour le Burkina Faso, on a 17 000 enseignants de plus que de salles de classe. Comment c'est possible?
Oui, c'est une question
C'est
que.
la fameuse question des enseignants fantômes.
Non, non, non.
Non?
Alors, ce chiffre vient d'un recensement qui a été mené en mars 2019. Et il est édifiant. Donc, on parle de pénurie d'enseignants, mais de l'autre côté, au primaire, on a 17 000 enseignants de plus que de classes répertoriées.
C'est-à-dire, ils sont où ces 17 000 enseignants s'ils ne sont pas dans une salle de classe
On
concrètement?
n'a pas de vision claire, mais moi, des discussions que j'ai pu avoir avec les personnes au Burkina, ils m'ont expliqué qu'en fait,
Le ministère, donc,
oui,
en
le
l'occurrence.
ministère, oui. En fait, ça vient surtout d'une mauvaise gestion au niveau des écoles, puisque un directeur d'école qui va avoir un enseignant problématique, au lieu de chercher à remplacer cet enseignant problématique, il va en demander un en plus ou deux en plus. Et finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec trop, trop d'enseignants et puis après les échelons supérieurs qui n'ont pas forcément vérifié sur quelle base sont faites ces demandes en enseignants.
Ouais. Alors, il y a maintenant des logiciels qui se mettent en place. C'est le cas au Sénégal. Je ne sais pas si le logiciel Mirador est déjà en place où l'enseignant doit donner des choix et c'est le logiciel qui va l'affecter sur l'un de ses choix. Ça fonctionne déjà?
Oui, absolument. Et c'est ça c'est très intéressant. On voit maintenant beaucoup de pays africains mettre en place des systèmes de gestion intégrés, des systèmes d'information de gestion, pardon, des systèmes d'information intégrés de gestion des enseignants.
Oui, c'est dur à mémoriser. Enfin, en tout cas, c'est un logiciel qui répartit les enseignants en fonction des besoins sur le territoire.
Voilà, et qui permet d'avoir une bien meilleure maîtrise des effectifs. Donc actuellement, les bases de données sur les enseignants sont réparties dans différents ministères qui ne communiquent pas entre eux, ce qui peut donner lieu à des enseignants fantômes. C'est
Il y a
souvent
des
le cas.
enseignants qui ne sont pas dans une salle de classe. Vous nous appelez au 33-7, 64, 45, 51, 41. Beaucoup de choses à dire hein, sur la situation mondiale des enseignants en cette journée mondiale des enseignants. On attend vos appels et on donne aussi la parole à une syndicaliste enseignante en France, Valérie Sipahi-Malani, dans quelques instants. groupe djiboutien qu'on vous présente chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est en direct, c'est RTD. C'est la journée mondiale des enseignants. Beaucoup à dire sur cette journée mondiale des enseignants en pleine pandémie. On le voit, la crise économique a jeté bon nombre d'élèves dans les établissements publics, créant des embouteillages alors qu'ils étaient auparavant scolarisés dans le secteur privé. Un gros manque criant d'enseignants à l'échelle de la planète, une profession à revaloriser, notamment à cause de la question des salaires, mais pas seulement, la considération sociale aussi compte, et en même temps parfois des failles dans les systèmes de pilotage qui fait qu'on peut se retrouver aussi bizarrement avec trop d'enseignants alors que la démographie nous montre qu'on en manque au contraire. On est en ligne maintenant pour parler du cas de la France avec Valérie Sipahi-Malani. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe du Syndicat national des enseignements du second degré, c'est le SNES en France. Une rentrée sous Covid-19 avec des consignes, des fermetures de classe, des conditions de travail compliquées pour les enseignants, d'ailleurs aussi pour les élèves, hein, le port du masque obligatoire. On a allégé récemment le protocole pour limiter les fermetures des classes alors que l'épidémie repart à la hausse. Bref, la situation, on a l'impression, vue de loin, est de moins en moins lisible.
Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, on aimerait avoir davantage de transparence. On voudrait savoir quel est le taux de contamination dans les établissements. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on a eu 3 à 4 mois d'école en moins l'année dernière, et des enseignants, ce qu'ils voulaient surtout, c'était se retrouver avec leurs élèves. Et donc, on a tout fait pour que les écoles et les collèges et les lycées rouvrent à la rentrée, et on était tous très contents de se retrouver. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que les 3-4 mois de l'an dernier, ils ont manqué très sévèrement à nos élèves. Et on aimerait bien que le ministère, et en plus on a du mal à enseigner derrière les masques, et ce qu'on aimerait, c'est que le ministère tienne compte de la situation et nous permette d'aménager les programmes et d'aménager les examens pour nos élèves. Mmh. Et ça, pour le moment, le ministère s'y refuse absolument.
Les enseignants disent, c'est clair que le compte n'y est pas, les enfants ont perdu en termes de niveau, ils ont perdu aussi l'habitude de travailler. Mais le ministère a bien mis en place des évaluations nationales, des élèves de classe de CP, CE1, et puis concernant le secteur qui vous concerne, le secondaire, en classe de 6e et de seconde. Pourquoi ces évaluations nationales sont si mal vécues par les enseignants ?
Alors, en collège et en lycée, c'est pas qu'elles soient mal vécues, mais c'est qu'on passe plus d'une heure, en fait, quasiment 2 heures, à installer des élèves derrière un écran d'ordinateur pour faire des exercices. Et ensuite, on reçoit une feuille sur laquelle on sait que nos élèves ont un niveau insuffisant, fragile, satisfaisant ou très bon sur des items qui sont tellement larges qu'on ne peut pas s'en servir. Donc nous, ça fait là maintenant 3 semaines qu'on a nos élèves, on les connaît, on sait quelles sont leurs lacunes, on n'a pas besoin d'avoir en plus des résultats qui sont très larges et puis qui sont pas du tout exploitables de la part du ministère. Donc on se dit que le ministère nous oblige à faire passer ces évaluations qui, lui, vont lui permettre d'avoir une idée du niveau d'une tranche d'âge.
À l'échelle nationale, d'avoir une photographie nationale. Oui. Et d'ailleurs, voilà. Au passage, les familles, la société aimerait bien avoir la restitution nationale de ces tests pour savoir si réellement les élèves ont beaucoup perdu en niveau ou pas. Pour l'instant, on l'a pas, la restitution nationale.
On n'a pas la restitution nationale, alors que... Bon, les tests, ils ont été passés du 14 septembre au 2 octobre, donc jusqu'à vendredi dernier. Mais c'est surtout que le ministère n'a jamais vraiment communiqué sur l'usage qu'il allait faire de ces tests. Donc il nous dit c'est pour les profs. Nous, les profs, on n'a pas été associés. On n'a pas le détail des exercices, donc ça nous aide en aucun cas à voir comment travailler mieux avec les élèves dans nos classes. D'autant plus qu'on n'a pas les moyens de le faire, vu que comme les moyens diminuent, même si on a des classes moins chargées que dans certains autres pays, j'entendais mes collègues tout à l'heure, c'est jamais réjouissant d'entendre les conditions d'enseignement tellement détériorées ailleurs, mais même nous, on n'a pas les moyens de faire travailler les élèves en petits groupes. Donc de toute façon, même si on sait qu'un élève est en difficulté, une fois qu'il est dans la classe, on n'a pas les moyens de le prendre à part pour l'aider à remédier. Donc on se demande à quoi servent ces évaluations. Donc peut-être ils serviront dans quelques semaines au ministère pour dire qu'il a réussi ou il n'a pas réussi à gérer la continuité pédagogique pendant le confinement. Mais nous, ce n'est pas notre problème actuellement. Notre problème, c'est de faire réussir nos élèves là tout de suite, maintenant, dans la classe.
Et vous avez le sentiment finalement que la pandémie a creusé les inégalités scolaires plus que jamais et qu'on ne vous donne pas les moyens, ou encore moins les moyens que d'habitude, pour résorber ces inégalités ?
Alors déjà, dans le second degré, là, on a le budget de l'an prochain. En 3 ans, on a perdu globalement 1 800 profs et on a 28 000 élèves en plus. Donc de toute façon, on a perdu 7 500 postes et on a bref, je vais m'en mêler dans les... Disons qu'on a toujours plus d'élèves en ce moment dans les collèges et les lycées et on a moins de profs. Donc on n'a pas les moyens
c'est
de...
C'est ça, la suppression des postes d'enseignants n'est en aucune façon justifiée par la démographie scolaire qui, elle, continue d'augmenter.
Pas du tout, pas du tout. En fait, le ministère fait le choix de renforcer l'encadrement dans les écoles. Et là, il a raison, il faut davantage de professeurs dans les écoles pour les petits. Mais il le fait en enlevant des postes dans les collèges et les lycées. Donc, il renforce la difficulté dans les collèges et les lycées. Nous, ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est que pour certains de nos élèves, ils ont pu suivre grâce à l'école à distance. Mais de fait, l'école à distance ne suffit pas. Et on espérait, parce que finalement c'est une expérimentation grandeur nature, hein, on n'a jamais fait ça auparavant, et ce que l'on constate, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est resté au confinement et les élèves n'ont pas progressé. Donc il y a une espèce de trou noir de ce qui s'est passé pendant le confinement. Les élèves n'ont pas progressé. Ce qui s'est fait pendant le confinement, ça a permis de maintenir le lien social, mais ça n'a pas permis de travailler des connaissances pédagogiques de manière durable.
Valérie Sipahi-Malani, vous restez avec nous. Je voudrais donner la parole à Barbara Tournier concernant les salaires. Vous évoquiez tout à l'heure le cas des enseignants aux États-Unis. Je parle des enseignants du primaire et du secondaire, hein, qui sont obligés, 16% d'entre eux au moins, sont obligés d'avoir un deuxième emploi pour boucler leur fin de mois. On n'en est pas encore là en France. Néanmoins, la question des salaires est quand même centrale sur la... pour définir la place sociale des enseignants. Comment vous calculez ça en termes de pouvoir d'achat, en termes vous faites des comparaisons avec ce que gagnent les autres à formation égale? Quelle est votre photographie sonore, vous, à l'UNESCO?
Tout à fait. Ben nous, on va se baser sur les données de l'OCDE. Mais ce qui est la donnée qui est la plus parlante pour nous, c'est vraiment de regarder à diplôme égal ce que gagnent les actifs dans d'autres occupations. Donc au niveau de l'OCDE, on va voir qu'au niveau du collège, les enseignants gagnent à peu près un petit peu moins de 20% de moins de ce que gagnent leurs pairs avec des diplômes égaux. Et c'est là que c'est vraiment problématique, c'est-à-dire que c'est humain, on va se comparer naturellement avec nos amis avec qui on a grandi, avec notre famille, et on va voir que si les écarts de salaire se creusent et qu'à diplôme égal, on ne gagne pas du tout la même chose, ça ne va pas du tout rendre le métier attractif.
D'autant plus qu'a priori, on reste enseignant toute sa vie.
Exactement. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer de revaloriser le métier, justement. Nous, notre constat de base, c'est que tant que les salaires n'auront pas été revalorisés, on ne pourra pas rendre la profession très attractive. Après, une fois qu'on a traité ce problème-là, on peut, à travers l'organisation de la carrière, chercher à revaloriser le métier. On peut, par exemple, changer les conditions d'accès à la profession. On peut diversifier les possibilités d'avancement professionnel, notamment.
C'est-à-dire ?
Nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans les recherches qu'on a pu mener, c'était de regarder les systèmes qui avaient élargi les possibilités de promotion pour les enseignants.
C'est-à-dire devenir formateur d'enseignants, par exemple. En fait, encore faut-il qu'il y ait un vrai système de formation des enseignants. C'est pas le cas dans tous les pays.
En fait, ce qu'on constate, c'est que les enseignants, comme vous l'avez dit, ils commencent enseignants et terminent enseignants souvent. Et dans beaucoup de pays, en fait, les enseignants qui vont vouloir avoir une promotion, ils vont s'orienter vers l'administration. Donc, ils vont quitter la salle de classe. Donc il faut créer plus de possibilités pour encourager les enseignants à continuer à rester dans la salle de classe tout en ayant des possibilités d'avancement dans leur carrière et un meilleur statut, une meilleure reconnaissance.
Valérie Sipahi-Malani, où en sont les discussions sur les salaires des enseignants en France? Est-ce que le vrai problème, c'est... Vous êtes un syndicat d'enseignants du second degré. Le vrai problème, c'est quand même les enseignants du primaire, hein, qui sont de l'avis de tout le monde nettement moins bien payés que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais vous vous dites aussi que pour les enseignants du secondaire, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat?
Alors bon, déjà, les enseignants du primaire et du secondaire sont sur la même grille de salaire. Moi, j'ai un retour, je ne m'entends pas très bien là, excusez-moi pour les conditions.
Nous, on vous entend très très bien, soyez rassurés Valérie Sipahi-Malani.
Donc, ils sont sur la même grille. Nous, ce qu'on observe, c'est que nos jeunes collègues, par exemple, qui sont payés dans l'entrée dans la carrière à 1,2 fois le salaire minimum en France, n'arrivent pas à se loger. Et donc, c'est un vrai souci pour l'attractivité du métier. Et actuellement, par exemple, on ne trouve pas de prof de mathématiques. Donc, on a le niveau des élèves français en mathématiques qui baisse. Il y a une enquête qui vient de sortir là-dessus, mais on n'a pas les profs de maths pour former correctement nos élèves. Donc, le ministre a annoncé cette année l'ouverture d'un dialogue à propos du salaire des enseignants, mais ce qu'il a mis sur la table ne suffit absolument pas. Et globalement, ce qu'il nous est dit, c'est si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus.
Oui. Il faudra faire plus d'heures de présence, du moins, dans les établissements. Hein. Ça ne veut pas dire enseigner plus.
Ah, ben on n'en sait rien, parce que ça peut être aussi de la formation obligatoire. Si se former, ce serait une bonne chose, mais tout dépend du moment de la formation. Et globalement, le ministre a mis sur la table des heures supplémentaires, et l'année dernière, ces heures supplémentaires n'ont pas été prises par les enseignants, parce que les enseignants sont déjà débordés, donc ils ne peuvent pas travailler plus.
Valérie Sipahi-Malani, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez en urgence dans le contexte de la pandémie ?
Alors, on demande de la transparence. Pour nos élèves, on demande un aménagement des programmes pour pouvoir les conduire à l'examen, parce que, notamment, on est dans une réforme du baccalauréat, oui. Et on ne sait pas comment s'y prendre pour préparer nos élèves. Et on demande une revalorisation du métier, qui soit une revalorisation générale des salaires, qui rende le métier plus attractif. En fait, ce qu'on demande, c'est que notre ministre nous écoute. Et pour le moment, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Valérie Sipahi-Malani. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat national des enseignements du second degré en France, des enseignants, pardon, du second degré en France. Hein. Vous êtes le SNES, donc pour les collèges et lycées. Merci, très bonne journée à vous.
Merci à vous, au revoir, bonne journée à toutes et à tous.
Merci, on est bien ce lundi 5 octobre dans la journée mondiale des enseignants et il y a beaucoup à dire, surtout dans ce contexte de pandémie. Barbara Tournier, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des pays qui sont parvenus à mener des réformes de fond et qui parviennent à avoir des résultats pour améliorer les carrières des enseignants, l'image aussi des enseignants dans leur métier ?
Oui, absolument. Il y a beaucoup de pays qui ont entrepris des réformes de carrière des enseignants. Alors, il y en a qui ont commencé justement par une revalorisation des salaires. Donc, on parle de la Thaïlande, par exemple, qui a revalorisé 3 fois les salaires depuis les années 2000. L'Écosse aussi a revalorisé les salaires. Et ça a eu un effet très positif sur la profession. Après, il y a d'autres pays, par exemple l'Amérique latine, ils ont énormément réformé les carrières des enseignants. C'est passé aussi par des modifications d'accès à la profession. Il y avait beaucoup de népotisme dans l'accès à la profession, donc ce n'était pas forcément les meilleurs candidats qui étaient choisis et ça décrédibilisait la profession. Donc il a fallu mettre de l'ordre là-dedans et ça a un impact positif aussi sur les apprentissages par la suite.
Je vous lis un message d'un enseignant, Tobias, qui est à Kinshasa, enseignant de mécanique en école publique. Et on sait que l'enseignement professionnel, c'est extrêmement important, surtout sur un continent où il faut plus de formation professionnelle. Il nous dit « Moi, j'ai été engagé comme prof en 2012 et depuis 8 ans, l'État ne me paye pas. Ce sont les parents qui nous payaient. Mais cette année, l'État a annoncé la gratuité et plus personne ne nous paye. C'est tout le problème des enseignants en école publique. On sait que ce qu'on appelle les frais de motivation étaient en réalité un salaire déguisé, payé par les familles pour les enseignants. Et ça devient problématique dans une école qui est annoncée comme publique. Et on en a parlé avec le ministre de l'Éducation de RDC il y a quelques semaines. On le voit bien, les pays essayent d'avancer, essayent de mettre en place des réformes. Et puis derrière, sur le terrain, souvent ça ne suit pas, Barbara Tournier. Alors est-ce qu'il y a aussi des formes de blocage, des lourdeurs administratives ? Parce que piloter un système d'éducation, c'est extrêmement lourd. C'est souvent, les profs, c'est le premier emploi public dans un pays.
Oui, tout à fait, c'est le premier emploi public, donc la masse salariale est assez énorme et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une bonne maîtrise des effectifs et à l'heure actuelle, il faut absolument renforcer la gestion des enseignants dans ces pays-là. Toutes les mesures passeront par une meilleure gestion.
Ouais, et on a bien vu que c'est vraiment une opportunité de la pandémie peut-être pour repenser le rôle des enseignants, pour faire face aux crises à venir. Hein. On l'a bien vu à quel point les enseignants étaient indispensables parce que quand l'école s'arrête, eh bien c'est la vie qui s'interrompt. Je vous lis juste avant qu'on se quitte le message, le FEDNER qui a posté de Port-au-Prince en Haïti. Il est enseignant de chimie à l'université, dans une université privée. Il veut souligner le manque de moyens. Je suis professeur de chimie, j'ai pas de laboratoire, j'enseigne juste la théorie. J'emmène parfois mes élèves dans un labo d'une autre école privée. Voilà, merci à vous tous. Merci Barbara Tournier de l'UNESCO. Merci à Amoussou Anselme et à Valérie Sipahi-Malani, des syndicats enseignants en France, au Bénin. Et merci à vous, les voisines, les voisins, pour vos messages, vos interventions. Et à toute l'équipe, Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions en podcast. On se quitte avec Samy Bru, Gravity. I can't help but question the path I never chose. When the greater order gets to me, I wipe it off my nose. I love the joy that's all around me. I love this creaky town. The box they built was pretty, but it could not bring me down. I don't feel gravity, no, no, no. I don't feel gravity, no, no, no. When people say to me, you don't lead, you follow. I don't feel gravity, no, no, no. Branson's in denial that you wanna be his friend. For all of the wrong reasons, it almost hurts his head. An impossible equation that he just can't rectify. Was the conversation, and I always wonder why. I don't feel gravity, no, no, no. I don't feel gravity, no, no, no. When people say to me, you don't lead, you follow. I don't feel gravity, no, no, no. Drawing diamond-studded clothes for the prettiest of women, with the press all satin rose. But in his head he doubts that he could be the center of the show. All I wanna do is say this future is your own. I don't feel gravity, no, no, no. I don't feel gravity, no, no, no. When people say quelques instants, le journal sur RFI. Et demain, on se retrouve, 7 milliards de voisins. On parlera des mères célibataires. Elles assument tout ou presque. Les enfants, le travail, les difficultés financières. Nous leur donnons la parole. Nous vous donnons la parole, les voisines. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. N'oubliez pas de rentrer ce numéro de téléphone WhatsApp dans vos contacts. Vous serez informés des émissions à venir. À demain.